Point commun, en tout cas, de celui qui trouve le trésor dans le champ et du négociant en perles fines, c'est qu'ils ne sont pas allongés sur leur lit, ils ne sont pas vautrés dans leur canapé. Ils font quelque chose. Ils ne restent pas inactifs, ils ne sont pas dans l'oisiveté. Et vis-à-vis de ce trésor qu'est notre foi, je crois que ça peut déjà nous dire quelque chose. Pour chercher, il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec, on pourrait dire. Il y a une démarche à faire vis-à-vis de notre foi. Et dans certaines situations, on peut être un peu trop attentiste. On attend que ça se passe et puis on espère que notre foi grandisse. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, je voulais relever quelques dispositions d'esprit. Si vous avez envie de trouver un trésor, vous voulez savoir auprès de celui qui a trouvé le trésor, comment il a fait pour avoir quelque chance de trouver aussi le trésor. Alors, j'ai relevé quelques qualités de ceux qui trouvent le trésor de l'Évangile. La première qualité qu'on retrouvait dans le verset qui précède l'Évangile, c'est de cultiver la petitesse et l'humilité. Si quelqu'un croit déjà tout savoir, il risque pas de trouver grand-chose. Et c'est souvent justement dans des moments de vulnérabilité que l'on découvre le trésor qu'est le royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Ça, c'est une première disposition. Une autre disposition, c'est d'avoir le désir de la vérité. Ça suppose quelquefois de ne pas suivre passivement le troupeau et ce que tout le monde pense, mais de se poser des questions, de chercher sincèrement la vérité, de ne pas mettre les grandes questions de l'existence de côté, d'où je viens, où je vais, qui suis-je. Une autre piste encore pour justement se disposer, c'est simplement de lire et d'étudier la parole de Dieu. Dieu nous a parlé, c'est quand même dommage. On voudrait le connaître et en même temps, il se fait connaître dans sa parole, bien sûr, et on ne prend pas le temps de la lire. Donc, il ne faut pas s'étonner après si on ne le connaît pas. Une autre piste encore, ça serait de prendre des temps d'intériorité. Parce que si on est tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes, on a du mal à découvrir le Seigneur. C'est Georges Bernanos qui disait que la civilisation moderne était une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Voilà, et le silence, ça nous fait du bien, à un certain moment, d'avoir ces moments de silence pour nous retrouver et retrouver le Seigneur qui nous habite. Encore une autre piste, je vous en donne quelques-unes, après vous verrez lesquelles vous explorerez. C'est de se rapprocher d'autres personnes qui ont déjà trouvé le trésor. Eux peuvent nous dire comment ils ont fait, donc de trouver des témoins, de se rapprocher de témoins. Après, notre rencontre avec Dieu sera toujours personnelle. Personne ne peut la faire à notre place. Une autre piste encore, c'est d'ouvrir son cœur aux pauvres et aux souffrants. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il a une proximité particulière avec les petits. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Ah, on ne t'avait pas vu pourtant, mais voilà. Alors ça, c'est un lieu aussi où on peut trouver le royaume de Dieu. Voilà, je m'en arrête à ces quelques points. Donc, chercher et du coup, se mettre en route, être dans une dynamique pour trouver. Pas rester sur son canapé. Deuxième point, alors vous sentez que ce deuxième point, il est central. Si on n'a pas ce deuxième point, on ne passera pas au troisième. Il ne suffit pas de découvrir le trésor. Encore faut-il s'émerveiller, se dire « quelle chance j'ai eue ». Les deux, on mesure un peu leur chance. Le royaume de Dieu n'est jamais au bout de nos efforts. C'est un cadeau qui nous est fait. Et de mesurer cette chance qu'on a de recevoir ce trésor, c'est vraiment important. Et il y a toute cette phase d'émerveillement qui est vraiment importante. Alors, je vous donne aussi là quelques pistes pour nourrir notre capacité d'émerveillement. Une première toute simple, c'est de prendre du temps. L'émerveillement, c'est compliqué pour les gens pressés qui ont un agenda surbooké. L'émerveillement, c'est lié à la contemplation. Et la contemplation, c'est difficile quand on est en train de courir. On a besoin d'oxygène, on a besoin de gratuité pour s'émerveiller. Et on a besoin d'une réceptivité. L'émerveillement, ça ne se fait pas quand on est complètement sous pression. Donc, je pense que dans notre société actuelle, on a besoin de garder cet espace, on pourrait dire, pour l'émerveillement. Et pas uniquement dans l'action, donc c'est lié à la contemplation aussi, cet émerveillement, comme je l'ai dit. Un deuxième élément, c'est le regard. L'émerveillement, ça comporte toujours un certain regard. Ça suppose de cultiver un regard qui voit le bien. Alors, il ne s'agit pas d'être des imbéciles heureux ou des optimistes béats. Est-ce que vous me permettez si je vous raconte une petite histoire? Ces deux frères, sans doute de la communauté, qui se promènent dans la nature et ils s'émerveillent devant... Voilà. En tout cas, il y en a un qui s'émerveille, qui est dans la louange, etc. Et puis, à un moment, il y a un petit oiseau qui s'oublie. Pof! Ça lui tombe sur la tête. On a un air un peu fin dans ces cas-là, un peu bête. Et l'autre se dit comment il va réagir. Il réagit dans la louange, bien sûr, en disant « Béni sois-tu, Seigneur, de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. » Mais vous sentez qu'il y a un certain parti pris derrière cet émerveillement. Dans ce regard, il y a un parti pris, mais un parti pris, encore une fois, qui n'est pas celui de l'imbécile heureux. Dans la deuxième lecture, si vous avez entendu, Saint Paul nous dit une parole qui, quelquefois, peut être un peu mystérieuse quand même. Nous le savons, il le sait. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Ça, c'est vraiment le socle de la louange. Je sais, dans la foi, que Dieu fait tout contribuer à mon bien. Alors, quelques versets plus tard, alors on ne les entendra pas dimanche prochain, parce que ça sera la transfiguration dimanche prochain, mais sinon, ça vaut la peine d'aller voir dans votre Bible, hein, c'est au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Après, saint Paul explicite pourquoi. Il ne dit pas ça, c'est pas un axiome comme ça qui... C'est parce qu'il a contemplé l'amour de Jésus. Voilà ce qu'il dit un peu plus loin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, etc. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et alors, il a cette certitude, mais qui est fondée justement sur l'amour que Jésus nous a manifesté en offrant sa vie sur la croix pour nous. Donc, le regard de l'émerveillement et de la louange, ça se fonde sur la foi. C'est très important, sinon... La louange, on ne persévère pas dans la louange si on n'a pas la foi, c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles, mais au-delà de ces choses difficiles, on sait qu'il y a l'amour de Dieu. Et puis, troisième piste, toujours pour l'émerveillement, c'est de veiller sur nos paroles. Pour prendre un gros mot, c'est les paroles ont un effet rétroactif. Il y a des gens... À force de raconter leur malheur, ils seront malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des difficultés, mais quelquefois, on se renforce dans son malheur en racontant son malheur. Mais on peut faire l'inverse, ça c'est la bonne nouvelle, on peut se renforcer dans son bonheur en racontant son bonheur, en racontant les grâces dont on est l'objet. Et ça, c'est très important. La louange, de garder un temps de louange, d'exprimer à Dieu son merci, c'est vraiment essentiel dans notre vie chrétienne. Donc, vous voyez, il y a besoin de temps, il y a besoin de ce regard pour voir selon le point de vue de Dieu, et puis il y a besoin d'entretenir ces paroles où on s'émerveille devant Dieu. Mais pour les râleurs invétérés, la louange, c'est compliqué, hein, mais voilà. Mais c'est précieux, la louange. Et alors, ce deuxième point sur l'émerveillement est fondamental, parce que après le troisième point, c'est le renoncement. Et le renoncement, si on le fait à contre-cœur, c'est compliqué. Vous remarquez le choix décisif. Alors, le renoncement, on pourrait dire que c'est la phase douloureuse du choix. Une fois qu'il a trouvé son trésor, il le met pour qu'on ne lui pique pas, et il achète le champ. Mais là, il est tout heureux. Mais pour acheter le champ, il va vendre tout ce qu'il possède. Il y a une totalité. Il ne peut pas rester entre deux. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. L'important, c'est le tout. Et pour les perles fines, rares, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. L'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup ou pas beaucoup. L'important, c'est de donner tout. Mais donner tout, ça veut dire renoncer. Ça, c'est la face douloureuse, on pourrait dire. Dans la montagne, il y a la face heureuse de tout donner, on pourrait dire. Mais l'autre face, c'est de renoncer. Là, c'est plus douloureux. Et si on ne s'est pas émerveillé devant cette chance d'avoir trouvé le trésor, cette chance d'avoir trouvé cette perle, on ne va pas jusqu'au bout. Alors Jésus, dans l'Évangile, nous donne plusieurs manières de le choisir et qui comportent donc un renoncement. Le choisir, c'est aussi se renoncer à soi-même, à son égoïsme, à son ego, pour que Dieu ait la première place. Choisir Dieu, c'est aussi le mettre à la première place et les choses matérielles à la deuxième place, pas à la première. Choisir Dieu, c'est aussi mettre même toutes nos affections à la deuxième place, pas à la première. Vous connaissez tous les passages de l'Évangile où Jésus nous en parle. Choisir le royaume, c'est aussi choisir un mode de vie tel que saint Paul nous le décrit. Hein. Alors c'est un passage qu'on lit le jour de Pâques quand on parle des hommes nouveaux. Faites donc mourir en vous tout ce qui appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, etc. Et puis après, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors voilà, choisir le royaume, ça comporte un renoncement. Mais ce renoncement, ça dit aussi la valeur qu'on attache au royaume de Dieu. Si on renonce à rien, c'est que le royaume n'a pas beaucoup de valeur pour nous. Voilà, alors, vous ne seriez pas là ce matin si vous n'aviez pas déjà, d'une manière ou d'une autre, trouvé le trésor dont parle l'Évangile. Mais on n'a jamais fini de le découvrir, il est inépuisable, le trésor. Alors l'important, c'est de rester dans cette dynamique de chercher, de s'émerveiller et de renoncer. C'est pas simplement un cercle, c'est une spirale, hein, on va de plus en plus loin. Alors demandons à Marie de nous aider à avancer sur ce chemin de chercher, s'émerveiller, renoncer. Amen.